Avez-vous connu Philippe Martinez? Est-ce que quelqu'un, si je dis Philippe Martinez, ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire, vous êtes peut-être venu à l'église, il est venu combien de fois? Deux, trois fois? Trois fois. Alors, je ne vais pas faire tout son curriculum vitae, mais Philippe Martinez vit dans le Vercors, dans un endroit très montagneux, et il est guide de montagne depuis des années. En 2006, il a gravi ou monté l'Everest. Est-ce que quelqu'un a déjà monté l'Everest? Non, d'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait monter l'Everest? Oui? Bravo. C'est quelle altitude? 8848 mètres. Quelle difficulté pour arriver jusqu'à là. Il a un film, j'ai tout regardé, c'est juste de la folie. Mais quelle victoire quand tu es au sommet. Après une épreuve aussi grande, la victoire est merveilleuse. N'est-ce pas? Mais l'épreuve est longue et douloureuse, des mois de préparation et des mois pour l'ascension. Je trouve assez extraordinaire de voir combien les gens sont prêts à passer par des épreuves pour éprouver leur caractère, pour se dépasser. Mike Horn, etc. Il y en a qui vont traverser le désert, d'autres c'est l'Antarctique, ils sont complètement fous. Il y en a qui vont nager pendant des jours, ils ont que ça à faire, de se prouver d'aller plus loin, d'être en plein dans l'épreuve. Il y a des malades, c'est bien. On veut devenir plus fort, parce que l'épreuve va produire quelque chose qui nous dépasse et qui nous amène plus loin. Il existe même, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, des boot camps. Des camps, en fait des camps où vous allez, vous vous inscrivez, vous payez et vous allez vivre comme des commandos de la survie. On vient, on te dit viens, paye, mais tu viens sans rien et on va te laisser dans la forêt. Tu auras juste deux cailloux pour essayer de te faire une grillade. Bon courage, tu vas plutôt manger tes doigts. Mais il y a des gens qui veulent se surpasser pour aller plus loin, apprendre à dépasser la souffrance et que l'épreuve nous permette de devenir plus forts. C'est plus facile lorsqu'on choisit. Je pense, pour Philippe Martinez, il a décidé d'aller à la conquête de ce mont Everest. Donc, mentalement, il était prêt à affronter cette épreuve. Mais que se passe-t-il quand on n'est pas préparé, ou du moins quand on n'est pas « je veux passer par l'épreuve, je veux être éprouvé ». Quelle est notre réaction? Comment réagissons-nous? « Yes, c'est trop cool! Je vais souffrir, c'est génial !» Je ne vais pas manger, c'est génial. Je ne vais plus pouvoir bouger, c'est génial. Ce soir, j'aimerais juste vous partager une pensée sur la manière de grandir dans l'épreuve. Comment appréhender l'épreuve? J'ai entendu deux prières ce soir qui, entre guillemets, confirmaient mon cœur. Seigneur, merci pour les épreuves. J'ai entendu une personne par ici, une personne par là. Merci de nous aider dans les épreuves. Alors, moi, j'aimerais vous parler de comment grandir face à l'épreuve. Comment appréhender l'épreuve dans nos vies? Et il y a bien sûr beaucoup de manières de réagir face à l'épreuve. Existe-t-il une bonne réaction? Est-ce que vous pensez à un texte que je vais vous lire là maintenant? Un texte connu, bien sûr, le plus beau des textes face à l'épreuve, Jacques 1. Voulez-vous réjouir avec moi? Lisez Jacques 1, on va prendre Jacques 1, les versets 1 à 4. Lisez avec moi Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut! Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui va écrire ce texte. Lui qui a pour longtemps refusé de croire que son frère était le Messie, qui ensuite sera la tête de l'Église de Jérusalem. Il a longtemps douté. Et aujourd'hui, voilà que ce texte de Jacques est un des textes qui nous parle du caractère du chrétien de la plus belle des manières. Lui qui a été têtu, aujourd'hui, nous demande de nous réjouir dans l'épreuve. C'est beau, non? Amen. Jacques vient nous interpeller sur notre manière de vivre. L'épître de Jacques est connue pour le caractère du chrétien, la religion, le caractère. Et quelle est la manière dont nous devrions réagir dans certaines situations? J'avais prêché un coup sur « Soyez les bienvenus » face à la différence des gens. Est-ce qu'on prête l'attention aux personnes riches? Quelle est notre attitude? Faisons-nous du favoritisme? Je trouve assez intéressant de voir comment Jacques commence son épître, cette lettre. « Réjouissez-vous, mes chers amis, de l'épreuve que vous allez vivre !» Vous êtes aussi content que moi, je vois ça. Il a dit « Réjouissez-vous !» Vous devriez dire « Alléluia ! Amen !» Merci pasteur de nous rappeler qu'on doit se réjouir face à l'épreuve. Moi, j'aurais plutôt dit, commence différemment. « Ok les amis, vous allez faire face à l'épreuve, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'épreuve ?» Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez pourquoi nous devons passer par l'épreuve? On a le droit de se poser cette question. Est-ce qu'un Dieu si bon, si parfait, voudrait volontairement nous faire passer par l'épreuve? Vous êtes déjà posé cette question, bien entendu, dites-moi pas que non, c'est sûr. Ça fait 6 ans que je me pose des questions par rapport à quelque chose dans lequel je suis encore en épreuve. Je me dis, mais Seigneur, vraiment? Est-ce vraiment nécessaire? On se pose cette question des fois. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai le choix de vivre ou pas des épreuves? Je relis le verset 2 très simplement. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il n'a pas dit, éventuellement, vous ferez face à des épreuves, donc prenez ces épreuves comme un sujet de joie. Et dit, réjouissez-vous parce que quoi qu'il arrive, vous allez faire face à des épreuves. Qui n'a jamais vécu des épreuves dans la vie? Je vous donne le micro, prêchez s'il vous plaît, expliquez-moi. Personne. On fait tous face à des épreuves, des défis, des challenges, vous pouvez les appeler comme vous voulez, des tentations. C'est une réalité et pas une éventualité, c'est pas peut-être que, c'est bien sûr que. Nous ferons tous face à diverses épreuves durant notre vie. Il n'y a pas de possibilité d'éviter ces épreuves. Amen ! Vous êtes contents, c'est bien. Je suis désolé, mais je dois vous rappeler cette réalité. Mais j'aimerais vous encourager aussi. Une chose est sûre, c'est que nous sommes tous égaux sur ce point-là. Que tu sois riche, tu sois pauvre, intelligent, pas intelligent, blanc, noir, ce que tu veux, tu feras face à l'épreuve. On est tous égaux, d'accord? Ton statut social ne changera rien. Tu vas faire face à l'épreuve. Je vous rappelle juste la petite définition, une définition du Larousse et une définition du Strong, donc de la définition du grec. Alors le Larousse nous dit, l'épreuve est l'essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose, un test. C'est un test, on vient tester quelque chose. C'est aussi difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez lui de la souffrance. Et dans les Strong, le mot en grec « perasmos » qui peut être défini comme une expérience, une épreuve, une tentation, une preuve. Voici quelques définitions supplémentaires dans ce mot-là. Adversité, affliction, malheur, envoyé par Dieu pour éprouver un caractère, la foi, la sainteté. Une épreuve qui vient tester notre amour, la preuve de notre amour. Quand ton couple, quand ta situation est difficile, est-ce que tu vas être fidèle? Est-ce que ton amour est suffisamment fort? Tu vas être testé dans ton amour. Normal. Ou une tentation. On va être tenté. Une attitude de rébellion et de doute face à Dieu. Voici les quelques définitions sur l'épreuve pour vous remettre tous à la même compréhension. Donc nous comprenons ici qu'il y a différents types d'épreuves. Par rapport à ce que j'ai dit, on peut les classer même, et je me suis amusé à les classer, et vous allez comprendre mieux de quelle manière j'ai classé ces différents types d'épreuves. L'épreuve physique, on ne parle pas d'un marathon, quoique un marathon pourrait être une épreuve. Qui c'est qui s'est inscrit au marathon ? Dans 2 semaines, à Genève, un marathon, ça vous dit 42 km de course à pied, 21, quelqu'un, je sais que Florian Monod s'est inscrit pour le semi-marathon. Ça va être une épreuve. Il va tester son endurance. L'épreuve physique, notre corps va éprouver quelque chose d'anormalement difficile. C'est l'épreuve physique. Un entraînement sportif, une maladie qui touche notre corps, une persécution physique. Il peut nous arriver de tomber, d'avoir un accident. Et alors, notre corps est atteint. Et on doit passer par un temps où notre corps est affaibli, il est éprouvé. Certains d'entre vous sont déjà passés par là. Moi, j'y suis encore. L'épreuve morale, les valeurs, nos valeurs vont être éprouvées. Notre attitude, notre intégrité face aux gens. L'intégrité au travail, la fidélité avec un ami, avec votre église. La manière dont vous choisissez vos films, ce que vous regardez, vous allez être testé dans votre intégrité. Comment réagirez-vous si on vous offre une augmentation au travail et on vous impose de mentir, d'agir de manière avec corruption, de falsifier des chiffres? Vous allez être testé dans votre travail, dans votre intégrité, dans votre morale. C'est une épreuve. On vient tester votre intégrité. Et l'épreuve de notre foi, physique, morale, foi. Notre foi va être éprouvée. Je pense que c'est même là que tout découle. Notre foi sera éprouvée lorsqu'on est chrétien, à travers l'épreuve physique, à travers l'épreuve morale, mais aussi à travers notre cheminement avec Dieu. Une réponse qui tarde à venir pour un travail, un enfant qui s'éloigne du Seigneur, différentes situations qui vous troublent, où votre foi va être éprouvée. Comment allez-vous réagir? Vous avez remarqué, j'ai dit physique, morale et foi, corps, âme, esprit. Vous avez fait le lien? On est éprouvé dans les trois aspects de notre vie. Alors qu'est-ce que l'épreuve, si je devais résumer? C'est une situation où notre corps, où est notre attitude, où est notre esprit, sera éprouvé de manière accentuée afin de provoquer une réaction et une réponse de notre part. Lorsque vous êtes éprouvé, lorsqu'on presse un citron, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on presse un citron, il sort du jus, d'accord? Lorsqu'on presse un Nicolas, qu'est-ce qui sort? Du jus aussi. Qu'est-ce qui va sortir? Des cris peut-être. La manière dont vous allez être éprouvé, vous allez être serré, compressé, on va voir ce qui sort de vous. Ça va déterminer aussi votre caractère. Ça va déterminer la manière dont vous croyez, dont votre confiance en Dieu. Et quand vous êtes pressé physiquement, quand vous êtes pressé moralement et spirituellement, comment réagissez-vous? Est-ce que Dieu est responsable de nos épreuves? Je pose une question. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Vous pouvez dire oui et vous pouvez dire non. Donc oui et non. Oui et non. Il permet certaines épreuves. D'accord? Il permet certaines épreuves. Mais il n'est pas forcément celui qui nous donne. Si aujourd'hui tu choisis de voler quelque chose et de passer en prison, est-ce que c'est lui qui t'éprouve dans la prison? Non, c'est toi qui as décidé. Donc il y a certaines épreuves que Dieu permet, d'autres c'est toi qui as choisi de te mettre dans une situation pourrie. On est d'accord? Qui va t'éprouver? Et ensuite on verra comment tu réagis. Mais Dieu n'est pas forcément le responsable. Dites pas, « Ouais Seigneur, je suis tombé à vélo, t'es vraiment pas cool. » C'est pas sympa. Non, c'est pas sa faute si t'es tombé à ski, etc. C'est pas sa faute. Attention, Dieu n'est pas responsable de tous tes malheurs. Mais comment bien réagir face à l'épreuve? Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète, tu peux le remettre, ouais, c'est le verset 2, de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh! La réponse est très simple. Comment devons-nous réagir face à l'épreuve? Lisez avec moi. Un sujet. Ouais, vous êtes tous contents là. Vous êtes vraiment, mais pourquoi on est venu à l'église ce soir? Pour qu'on nous dise que je dois me réjouir quand c'est difficile. Amen. Beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Moi, je fais que lire. Hein. Je fais que lire. Jacques nous dit, réjouissez-vous. Nous devrions nous réjouir pour pouvoir faire face ou devant n'importe quelle épreuve. C'est génial, on se réjouit. Jacques, reviens sur terre, mon ami. Tu es resté trop longtemps proche de ton frère. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Qui c'est qui, généralement, quand il fait face à une épreuve, à une difficulté, saute sur le banc et dit « Alléluia !» Vous sautez. Appelez-moi quand vous faites ça. S'il vous plaît, encouragez-moi. Parce que pour moi, c'est difficile, hein, en tant que pasteur. Hein, donc, croyez pas que c'est plus facile pour les pasteurs. c'est un défi. Disons que la joie est une réponse éventuelle, je l'accorde, et j'ai envie d'aspirer à cette réponse et à cette réaction. Quelles sont les autres réponses ou réactions qui pourraient être un choix ? J'en ai nommé quelques-unes. Hein. La colère, certains, d'accord, hein, on est d'accord. L'incompréhension, on est d'accord. La tristesse, l'abandon, le déni, le courage, la patience, etc. Vous avez plusieurs choix face à l'épreuve. Vous allez choisir. Pas moi, vous choisirez. Prenons un exemple réel. Comment se réjouir lorsqu'on t'annonce que tu devras être opéré et porter des béquilles durant 10 mois et ne plus pouvoir rien faire physiquement avec tes jambes? Est-ce qu'on saute? Bon, on ne peut plus sauter, on doit se mettre sur les mains. Est-ce qu'on lève les mains et on crie de joie? Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà dû marcher avec des béquilles. Est-ce que quelqu'un a déjà marché avec des béquilles? Ok. À la veille des vacances de Noël 2000, ça fait longtemps, je crois que c'était 2001, je suis tombé en moto. Mon abonnement de saison de snowboard était déjà acheté, prêt. Mon snowboard était prêt, je me réjouissais. Et je suis tombé à moto, bêtement, hein, alors que je faisais le fou bien souvent. Là, je suis tombé bêtement à 30 à l'heure. Mais je suis mal tombé, je me suis cassé la clavicule et je me suis cassé l'astragale. Vous savez ce que c'est ? Le talus, l'os le plus important pour vous permettre de bouger la cheville, d'accord ? Il y a une seule, je crois que c'est les veines artères, je me confonds toujours. Il y a seulement un, si tu déchires, je crois que c'est une veine qui vont là-bas, tu ne peux plus bouger ton pied. Soit je me trompe, c'est artère ou veine, peu importe. Je me suis retrouvé avec mon pied comme ça, déboîté. Heureusement, ce n'était pas une fracture ouverte, donc ce n'était pas trop gore. Mais mon os, quand même, il sortait, c'était moche. Mon pied est tordu, je ne pouvais plus marcher. Je me suis retrouvé directement à l'hôpital et plusieurs professeurs et des gens qui regardaient mon pied, ils regardaient si le sang passait encore. Ils ne sentaient plus le sang. Alors ils se sont dépêchés, ils ont remis le pied en place. Scrunch, je n'ai rien senti parce que de toute façon, il y avait une grande dose d'endorphine. Dieu est bon, il fait bien les choses. Mais à partir de là, ils ont dit, monsieur, on va vous opérer, des vis et des machins. Pendant 6 mois, vous n'aurez plus le droit de poser le pied par terre. Alors que j'avais mon abonnement, j'étais un malade du snowboard à cette époque, j'étais un dingue de tout ce qui est extrême, et là on me dit comme ça, alléluia, j'ai commencé à louer le Seigneur. Non, vraiment pas. J'étais vraiment pas content. J'étais en colère, je comprenais pas, j'étais fâché. Est-ce que Dieu était responsable de mon malheur? Non. J'avais pas changé mon pneu de moto arrière, il glissait, et j'ai glissé. Est-ce que Dieu voulait m'apprendre quelque chose? Ben oui. Parce que Dieu veut toujours nous apprendre quelque chose. Parce que Dieu, il est toujours présent dans tout ce qu'on vit. Et si on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alors il nous enseignera toujours quelque chose. Il sera avec nous, toujours. Dieu voulait travailler mon caractère, il voulait approfondir sa présence dans ma vie. Il voulait que je réalise que Dieu reste Dieu, quoi qu'il arrive. Et que Dieu reste bon, quoi qu'il arrive. Et que Dieu est juste, quoi qu'il arrive. Il voulait me rappeler que, premièrement, même si j'avais un abonnement, c'est pas grave. Même si j'avais une belle moto, c'est pas grave, etc. Même si mes deux jambes étaient merveilleuses et ma cheville était merveilleuse, eh ben, qu'elle le sera différemment, c'est pas grave. Dieu est bon. Et il voulait travailler mon cœur, travailler ma foi, travailler mon caractère. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10, vous le connaissez sûrement. Arrête-toi, Nico. Dans cette situation, arrête-toi, lève les yeux, je suis Dieu, je suis bon. Vous connaissez bien sûr Romains 8, 28, on le dit toujours, est-ce qu'on le vit toujours? C'est facile de le dire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu par rapport à son plan. C'est facile de le lire, c'est facile de l'apprendre par cœur. Est-ce qu'on le vit? Merci Seigneur, parce que je sais que c'est pour mon bien, alors je peux me réjouir. Mais est-ce que tu le sais? Par la foi. Est-ce que tu en es convaincu? C'est ça. Est-ce que si j'avais décidé de dire, mais Dieu, de toute façon, t'es pas bon, c'est pas cool, t'es pas un Dieu qui est bon, est-ce que j'aurais guéri plus rapidement? Certainement pas, je crois que j'ai mis même certainement pas. Non, je n'aurais certainement pas guéri plus vite. Est-ce que j'aurais été plus heureux? Mais non, j'aurais pas été plus heureux. Est-ce que j'aurais grandi dans ma foi? Ben non, c'est pas possible. Si j'avais dit, ben de toute façon, t'es pas bon, t'es méchant. Ma foi n'aurait clairement pas été, n'aurait pas été vivifiée ou travaillée, elle aurait été écrasée. ma vie avec Dieu aurait été très endommagée. Ça dépend comment tu vas regarder ton épreuve. Selon comment tu regardes et tu réagis face à l'épreuve, ta relation avec Dieu va être extrêmement touchée. Soit en positif, soit en négatif. Comment réagis-tu face à l'épreuve? On a bien compris qu'il y a plusieurs réactions face à l'épreuve. Est-ce que quelque chose détermine notre réaction? Je me suis posé la question, est-ce que mon statut social va déterminer ma réaction? Non. Est-ce que mon compte bancaire va définir ma réaction? Vous pouvez dire avec moi, non. Est-ce que ma célébrité va déterminer mon choix? Non. Est-ce que le nombre d'amis que j'ai va déterminer mon choix? Non. Est-ce que mon intelligence? Non. Est-ce que ma coupe de cheveux? Oui. Non. Non, je dis non. Bien sûr que non. Toutes ces choses-là, elles ne pourront pas déterminer mon choix. Ça ne va rien influencer par rapport à Dieu. La seule chose qui va me permettre de bien réagir, c'est la manière dont je connais. Mais quelle est ta connaissance de Dieu? Est-ce que tu es proche de Dieu face à l'épreuve? Ou est-ce que tu es loin de Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu à ce moment-là? C'est ce qui va définir ma réaction, la confiance que j'ai en lui, ma foi en Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'a fait Job? Job, il avait tout, la richesse, il avait les amis, il avait la famille, le troupeau. Dieu a permis qu'il soit éprouvé. Je dis bien Dieu a permis, pas Dieu a envoyé. Dieu a permis, d'accord? C'est pas pareil. Que ses enfants soient enlevés, que toute sa richesse soit enlevée. Et qu'est-ce qu'il va dire, Job? Et ses amis sont venus, certains n'étaient pas forcément d'encouragement les plus hauts. C'est sûr qu'il faut avoir des meilleurs amis que Job, on dira. Job a dit, verset 20, chapitre 1, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni !» Waouh! Ses enfants sont morts. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et au verset 10 du chapitre 2, Job va répondre à sa femme qui est en train de lui dire, là aussi, il a peut-être mal choisi sa femme. Je ne vais pas remettre ça en cause, mais... Elle va lui dire, mais arrête de louer ton Dieu, arrête de croire que Dieu est bon. Arrête d'être persuadé que Dieu est juste. Tu vois bien ce qui nous arrive. Renonce à ton Dieu, renie ton Dieu. L'épreuve est trop dure. Et là, il va dire, mais tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et là, je veux, est-ce que tu bénis Dieu dans l'abondance? C'est facile, hein, quand ça va bien, quand tu as prié, Seigneur, donne-moi un appartement, donne-moi ça. Ah, merci Seigneur. Et quand la même chose se passe et tu réussis pas, est-ce que tu bénis Dieu? Ce matin, justement, c'est bien, on a regardé ce film « Facing Giants ». Peut-être vous l'avez déjà vu, ce film chrétien, l'équipe de football. Et ils ont, au moment où Dieu prend la place dans l'équipe, ils vont dire « On bénit Dieu quand on gagne, on bénit Dieu quand on perd ». Est-ce qu'on est de cette même attitude, de cette même trempe dans l'adversité? Est-ce qu'on bénit Dieu quand tout va bien? Est-ce qu'on bénit Dieu quand tout va mal? Je me pose la question et moi, j'y arrive pas encore toujours. Je suis honnête avec vous. Je ne sais pas si le pasteur Walter, après 30 ans et plus de ministère, il y arrive. Peut-être mieux que moi, je pense, oui. Je pense qu'il a connu la fidélité, il a été éprouvé, sa foi est plus ferme parce qu'il a expérimenté Dieu davantage. Sa foi en Dieu, c'est comme ça. Il a été éprouvé, sa foi est solide. Comment Jésus a réagi alors qu'il s'avançait pour se faire crucifier? Maltraité. Le pasteur Walter, justement, était avec les jeunes alors que nous étions à Mulhouse pour une rencontre avec aussi 2000 jeunes. Et il a parlé sur les 7 phrases que Jésus a dit à la croix. Je les ai reprises vendredi pour introduire mon message. Je ne vais pas tous vous les dire là maintenant, mais une de celles qu'il a dit, c'est « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont en train de me crucifier, il est en pleine épreuve, en plein défi. Il dit « Pardonne-leur, ce n'est pas grave. » C'est pas grave. Il est en train d'être éprouvé, mais il est tellement connecté, tellement proche de son Père qu'il peut le pardonner alors même à ses bourreaux. Il savait que la souffrance par laquelle il passait, même si elle devait être terrible, n'était rien en comparaison de la joie, de la réconciliation qui découlerait de son sacrifice à la croix pour nous. Amen. La joie qui allait venir suite à cette souffrance était déjà plus grande dans son cœur et ça lui permettait d'avancer. Ça lui permettait de pardonner parce qu'il avait une perspective divine, parce qu'il avait un regard sur l'éternité, parce qu'il connaissait son Père. L'épreuve devenait une joie complète. L'accomplissement de la réconciliation, un sujet de joie parce qu'il savait qu'il allait pouvoir être avec nous. Et moi, quand je vois des gens à l'église le vendredi et le dimanche, en fait, j'ai envie de dire merci Jésus pour le miracle. Parce que si vous êtes là, c'est un miracle. Dieu vous a conduit à lui. Le regard de Jésus allait bien plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait parfaitement son Père et lui faisait parfaitement confiance. Il n'a pas douté. Sa réaction était simplement « Je te fais confiance, j'avance. Je vois déjà la joie après. » C'est parce qu'il était si proche de Dieu qu'il a pu aller jusqu'au bout. Et en vivant déjà la joie de la délivrance qui était promise. Il a pleuré, il a souffert. Il a eu des larmes de sang. Attention, la souffrance était telle que je pense qu'on ne peut pas imaginer. Mais sa perspective était déjà la joie et la réconciliation. Quelle est ta perspective dans l'épreuve ? Quand tu vois l'épreuve, est-ce que tu es comme ça ou est-ce que tu es « Waouh, gloire à Dieu, j'étais en train de faire un truc de dingue. Alléluia !» Quelle est ta perspective ? Quelle est ta confiance en Dieu ? Son choix face à l'épreuve était conduit par l'amour et la confiance qu'il avait avec son Père. Il aimait son Père. Il lui faisait confiance. Après, il aimait son Père. Alors l'épreuve produit quelque chose de magnifique dans ce cas-là. Lorsqu'on réagit en laissant Dieu, lorsqu'on réagit en étant proche de Dieu, lorsque son cœur agit dans l'épreuve. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà le but, voilà le désir de Dieu, de nous amener dans la perfection. Qui c'est qui veut être parfait ? Waouh ! Bon ben, je pense qu'on va devoir prêcher davantage sur la perfection. Moi, je veux être parfait, même deux fois parfait, même trois fois parfait, même quatre fois. Moi, je veux être parfait. Qui c'est qui veut passer par l'épreuve ? Là, vous avez le droit de ne pas lever les mains. Donc vous dire, je veux être parfait, mais je veux pas passer par l'épreuve. Parce que c'est ça, c'est dire, si tu veux être parfait, dis-toi, ah cool, c'est dire, je dis oui à l'épreuve. On comprend les choses ? Voici ce que nous dit Jacques, que l'épreuve de notre foi va produire la patience. Dieu veut nous enseigner et nous façonner à travers les épreuves. À travers quelconque de tes épreuves, il veut façonner ton amour, en fait. Il veut façonner ta confiance en lui. Dans ton travail, dans ton physique, dans ta foi, dans tes choix d'intégrité, dans tes valeurs. Il veut t'éprouver, il veut façonner, il veut te presser comme un citron. Et il veut voir ce qui sort. Il veut que nous puissions devenir patients, persévérants. La patience, c'est difficile. J'avais prêché là-dessus il n'y a pas très longtemps. Certains ont dit « Ouais, mais toi, tu es vraiment un impatient. » Peut-être. Mais moi, je serais très intéressé de vous voir dans des queues, à la caisse de la Migros, etc. Un jour où vous attendez, je serais très intéressé. Parce que c'est toujours... Moi, je reconnais, je ne suis pas très patient, ça se travaille. Et je reconnais aussi qu'à travers les défis, Dieu travaille ma patience. Mais la patience, c'est la persévérance. C'est la ferme assurance de ma foi, de ma confiance en Dieu, de mon amour. Il veut travailler mon amour pour lui. Cette patience, elle va être travaillée. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu sur la longueur ? Je vous dis, ça fait 6 ans que je prie pour ma guérison de mon hernie discale. Ça fait 6 ans que je prie, et je prierai, je ne prie pas tous les jours, comme j'ai dit, je crois, l'autre fois, mais je prie, mais je suis patient, je persévère, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je vais insister dans la prière, c'est ce que je disais jeudi, on doit insister, Dieu nous invite à insister, à être ennuyeux même dans l'insistance. Luc 11, Luc 18, lisez, relisez. Luc 11, verset 5 à, je crois, 9 ou 12, relisez. Quand l'ami vient vous réveiller à 3 heures du matin, t'as pas des pains ? Non, non, casse-toi. Mais vu que t'insistes, il va t'ouvrir, il va dire, prends le chicken, prends tout. Mais tu me saoules. Dieu va dire, insiste de la même manière. persévère, sois patient et continue. L'épreuve arrive bientôt à sa fin. Dieu veut aller plus loin, il veut affûter cette persévérance, cette endurance. Si tu fais confiance à Dieu dans ton épreuve, il va te donner de la patience surnaturelle, une persévérance qui ne vient pas de toi, mais qui vient de lui. Parce que si tu lui fais confiance, Dieu va te permettre d'endurer la souffrance. Et on l'entendait justement, une sœur disait, c'est pas tes forces, c'est son esprit qui va te permettre d'endurer. Parce que lui, il est passé par là, il va te dire, t'inquiète pas, je t'accompagne aussi par là. J'ai souffert, je souffrirai avec toi, je te permettrai d'aller jusqu'au bout. Fais-moi confiance, persévère. Persévère dans ma confiance, c'est ça qu'il veut nous dire. Mais c'est pas tout. La patience va nous amener à la perfection. La patience va nous amener à la perfection. Afin que nous soyons accomplis, parfaits, ne manquant rien. Il veut dire quoi ici ? Être parfait, ne rien manquer. Moi, je veux être parfait. Je veux ne rien manquer. Je veux tout ce que Dieu a prévu pour moi. Et je veux qu'il ait la place de faire tout ce qu'il veut en moi. Ça, c'est mon désir. L'or. L'or doit être purifié. Quand vous cherchez un bloc d'or, vous trouvez un bloc d'or, il faut le passer au feu. On dit le creuset, au feu du creuset. Pourquoi ? Pour enlever les impuretés. Et le feu, c'est pas très cool. Le feu, ça fait mal. Ça épure. Mais le feu vient épurer. Et les déchets tombent pour laisser seulement l'or pur. Dieu veut pas éliminer seulement certains déchets. Il veut éliminer tous les déchets de notre vie. Et je suis désolé de vous dire ça, mais les épreuves sont des moments où Dieu vient nous raffiner. C'est des moments où il nous presse pour enlever ce qui n'est pas bon, pour laisser ce qui est meilleur. Et je suis certain que certains d'entre vous qui êtes passés par des difficultés, aujourd'hui, votre cœur est plus tendre. Aujourd'hui, votre compassion est plus grande. Aujourd'hui, votre générosité. Qui a été en galère financière un jour ? Je n'ai pas besoin de voir vos mains. Aujourd'hui, je suis sûr que lorsque tu vois un frère, une sœur qui galère financièrement, ton cœur est plus prêt à donner. C'est sûr ! Pourquoi ? Parce que ton cœur ressemble davantage à Jésus. C'est certain. La pureté, parce que ce qui est sale commence à sortir. Et seulement ce qui est pur, seulement ce qui est parfait, seulement Jésus commence à paraître, à transparaître. Amen. Nous devons accepter les épreuves comme un outil de perfectionnement dans les mains de Dieu. Il désire nous épurer de nous-mêmes. Amen. Afin qu'il ne reste plus que Jésus en nous, l'or pur. Les épreuves font sortir le nous pour laisser le Jésus. Amen. Amen. C'est pas facile, mais on en veut. On veut moins de nous, plus de Jésus. Plus d'épreuves, moins de nous. Amen. Ouais, je sais pas. Ce n'est pas nous qui pouvons devenir parfaits ou justes, mais c'est seulement Jésus qui peut le faire en nous par son Saint-Esprit. C'est son Saint-Esprit qui va nous transformer et qui va produire ce fruit. C'est lui. La souffrance et les épreuves vont nous permettre de nous approcher de Dieu et de réaliser que nous ne sommes rien sans lui et qu'il est tout pour nous. Que dira Paul ? Il a prié pour son écharde. Il a prié. Et ensuite il va dire, ma grâce te suffit. Ce verset, il nous encourage dans l'épreuve. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Oh, j'aimerais être faible pour voir ta force, pour voir ta gloire. Oh, j'aimerais être dans l'épreuve pour m'abaisser et que tu puisses t'élever. C'est ça que Jésus dit. Non, tu dois rester éprouvé pour que je puisse paraître davantage en toi. Il vient briser l'orgueil pour que Jésus paraisse. Le but de nos épreuves est de devenir plus comme Jésus dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, afin qu'il puisse nous rendre parfaitement semblables à lui. Je termine. Alors que nous comprenons à travers ce texte de Jacques que l'épreuve n'est pas une fin en soi, mais elle est plutôt le moyen de perfectionnement que Dieu utilise pour nous permettre de lui ressembler. C'est plus simple quand on comprend à quoi sert l'épreuve de se réjouir dans l'épreuve. Mais pour te réjouir, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois être convaincu qu'il veut le meilleur pour toi. L'épreuve est bien réelle, parfois même très douloureuse, et je pense qu'on le sait tous. et même parfois elle dure très longtemps. Mais elle accomplit en nous un changement profond. Elle nous rend humbles, elle nous permet de réaliser que Dieu est souverain et de se rappeler qu'après la tempête vient le soleil. La patience se traduit par notre persévérance au milieu de l'épreuve et elle est le thermomètre de notre foi. Je peux persévérer car j'ai confiance. Si tu as confiance, tu peux persévérer. Maintenant, je peux le dire. Seigneur, je me réjouis car dans cette épreuve, tu es en train de faire ton œuvre et tu me transformes plus comme toi. Amen. Et lorsque nous sortons de l'épreuve, notre cœur ressemble davantage à celui de Jésus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les personnes que je vois avec des problèmes de santé, je réagis plus pareil. Spécialement quand on est jeune, parce qu'on dit, il y a une conception humaine qu'on dit, quand tu es jeune, tu dois être en bonne santé. Non, c'est faux. Le péché a tout détruit. Le péché a tout transformé. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois être en bonne santé. On prie pour des enfants qui sont atteints de cancer. Pourquoi ? Parce que l'épreuve touche tout le monde, à n'importe quel âge. Mais fais confiance, Dieu est souverain. Fais confiance, Dieu est en train de faire quelque chose de beau dans ta vie. J'aimerais terminer par ce verset et ensuite on va prier. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen.